Bienvenue en première classe, un balado par Gentologie, le magazine pour gentlemen. Mon nom est Normand Boulanger et je suis le fondateur, éditeur et rédacteur en chef de Gentologie et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce 12e épisode. En première classe, c'est un espace de discussion où l'élégance contemporaine se vit à travers la connaissance, le savoir-faire et l'expérience. Qu'il s'agisse de spiritueux, de gastronomie, d'art, de voyage ou d'automobile. Aujourd'hui, nous explorons une autre facette du gentleman, soit le style et plus précisément l'horlogerie. À ce propos, je reçois Mme Sarah Cadbé, fille de l'un des fondateurs de Château d'Ivoire. Elle en dirige aujourd'hui les activités marketing avec une rare capacité à concilier l'héritage d'une maison familiale et une vision résolument contemporaine de la marque. Passionnée par l'univers du luxe, l'art de la mise en récit et l'expérience client, elle participe activement à écrire le prochain chapitre de l'une des plus importantes destinations indépendantes au Canada en matière d'horlogerie et de joaillerie de prestige. Dans cet entretien, nous remonterons aux origines de Château d'Ivoire, nous explorerons ce que représente Watch & Wonders pour une maison comme la leur et nous découvrirons comment on fait vivre au quotidien une passion pour la montre dans un marché aussi exigeant que celui du luxe canadien. Une conversation entre héritage, ambition et amour du beau métier. Installez-vous confortablement et bienvenue en première classe. Aujourd'hui, comme je vous le disais en introduction, nous recevons Mme Sarah Cadbé, directrice marketing de l'entreprise montréalaise Château d'Ivoire. Bienvenue Mme Cadbé. Si nous commençons tout de suite avec votre parcours, qu'est-ce qui vous a attiré dans le monde de l'horlogerie, joaillerie? Est-ce que c'était une évidence dès le départ ou plutôt une découverte progressive?
C'est un peu des deux parce que j'ai toujours, ma famille a toujours travaillé dans ce domaine depuis mon enfance, donc j'ai grandi avec une proximité, une familiarité avec la joaillerie et l'horlogerie. Donc, quand même chanceuse avec ça. Mais c'est vraiment là où j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler à temps partiel pour aider, pour découvrir un petit peu. Puis c'est là où l'amour a vraiment commencé. Parce que j'ai appris de plus en plus par rapport de l'histoire derrière les marques, des détails dans notre manufacture des bijoux. Donc avec ça, c'était plus progressivement que j'ai commencé à beaucoup aimer le domaine.
Puis par rapport à ça, est-ce que justement, il y a un objet, il y a une pièce, il y a quelque chose, je sais que vous fabriquez vos propres pièces, est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché vraiment comme « Oh, wow, OK, notre famille fait ça, je veux aller là-dedans » et puis…
Il y a un moment en particulier où mon père présentait une bague à un client. Il présentait la bague, genre, il a sorti la bague du comptoir et évidemment, on a les lumières au-dessus des comptoirs pour bien voir les produits, mais quand il présentait la bague, il disait au client comme « Tous les diamants vont briller en dessous de la lumière en direct, mais c'est un diamant de qualité, ça va continuer de briller même si c'est pas sous lumière directe, dans un emplacement plus sombre. » Puis il a bougé le diamant et on est allé quelque part plus sombre, puis ça continue à briller. Donc c'était un moment mémorable pour moi parce que c'était une belle présentation, puis c'était comme un moment wow pour les clients et même pour moi qui regardais ça. La bague était magnifique, mais c'est aussi, ça montrait comme la qualité de nos produits, l'attention des détails et la passion de mon père, de ma famille. Donc, c'était spécial. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui a comme déclenché cet amour-là.
C'est vraiment intéressant parce que souvent, on dit que dans le luxe, un peu, c'est souvent des transmissions des valeurs vers le savoir-faire un peu. C'est souvent des... si on pense à LVMH, par exemple, qui transmet de la famille à la famille à la famille. Puis Justement, j'imagine que vous entendez bien dans la famille, même si des fois, il doit y avoir des petites chicanes comme dans n'importe quelle bonne famille. Mais ça a été quoi le rapport justement à la famille là-dedans? Est-ce que ça a été quelque chose qui était facile avec vos frères, sœurs, peu importe? Comment vous gérez ça?
Oui, mais c'est... Dans le fond, mon père et mon oncle ont toujours comme transmis la valeur de la famille depuis notre enfance. On a vraiment grandi ensemble comme frères et sœurs, mes cousins et cousines aussi. Donc, c'est pour nous, c'était toujours ça faisait toujours partie de notre vie de comme valoriser la famille avant tout. On travaillait ensemble, c'était facile à cause de ça. En plus, je pense qu'une des valeurs qui était transmise par nos parents, c'était toujours la valeur des relations humaines entre nous et notre équipe, entre nous et nos clients. Puis c'est quelque chose... C'est là où ils ont comme bâti le Château d'Ivoire sur ces valeurs-là, puis on continue avec ces valeurs-là. Mais en plus, chacun de nous, on a notre domaine, on a notre département dans l'entreprise, donc ça facilite beaucoup les affaires, puis on est capable de parler ensemble pour faire des décisions et chacun s'est allé dans nos départements pour continuer les affaires. Et ouais, donc ça, on est chanceux. On est nombreux, mais on est chanceux que ça va bien.
Mais c'est bien, parce que c'est ça que... Puis c'est pour quelqu'un qui connaît pas justement Château d'Ivoire, qui est un diamant à Montréal, on pourrait dire, si on peut dire ça comme ça. Comment on définit l'ADN de Château d'Ivoire? Qu'est-ce qui a pas changé depuis que c'est mis sur pied par ton père et ton oncle il y a combien d'années? Près de 40 ans?
Ouais, presque 50. Presque 50. Ouais. Mais c'est quelque chose qui a jamais changé, c'est la famille. Ils étaient toujours là à chaque jour depuis jour 1. Donc, c'est quelque chose qui c'est quand même spécial. L'emplacement aussi, l'adresse au 2020 rue de la Montagne, ça fait partie de notre ADN. On a toujours été, bien que l'édifice a beaucoup changé et rénové au fur et à mesure des années, ça a toujours été au 2020 rue de la Montagne, donc ça, c'est spécial aussi. Puis, quelques-uns de notre membre, des membres de notre équipe aussi font encore partie de notre équipe depuis 40 ans. Et nos partenariats aussi, il y a beaucoup de partenariats qui ont débuté avec les marques qui ont débuté depuis les années 80, 90. Donc, on est bien établi comme une destination d'horlogerie, de bijouterie. Au centre-ville de Montréal, et on est bien établi comme entreprise familiale on valorise beaucoup les relations avec nos clients. Donc, je dirais que ça fait partie de l'ADN du Château d'Ivoire.
Puis, qu'est-ce qui a changé depuis les premiers jours? J'imagine un peu, vu qu'avec un nom comme Ivoire, c'était un peu plus dans un autre domaine. Maintenant, c'est beaucoup plus l'horlogerie, la joaillerie, les montres, qui a pris beaucoup plus d'importance.
Oui. Honnêtement, au début, ils ont ouvert le magasin, ils ont vendu des objets qu'ils ont de partout, un petit peu de partout dans le monde. Donc, durant leur... en Chine, en Afrique, du Liban, c'est la famille libanaise. Donc, on avait beaucoup d'objets divers. Ou dans l'ivoire, sûrement, il y avait ce matériel-là, mais c'était pas la partie majoritaire de l'entreprise. Mais c'est la demande des clients et ce qui a inspiré offrir les bijoux et vendre, devenir une bijouterie. Donc, premièrement, on était bijoutier, mais maintenant, on a beaucoup de marques de montres et on est une destination pour les collectionneurs. Donc, ça a beaucoup changé. Peut-être plus que 30 marques qu'on offre dans le magasin, en plus de notre produit qu'on manufacture nous-mêmes. Donc oui, ça a évolué notre entreprise. Puis oui, l'édifice, évidemment, ça a changé.
Oui, justement, par rapport à la nouvelle maison, on pourrait appeler ça du Château d'Ivoire, même si c'est un peu les mêmes fondations, c'est quand même vraiment une déclaration que vous faites avec cet édifice. Comment ça s'est construit le projet? Je pense que c'est toi qui es un peu en arrière de tout ça. Qu'est-ce que ça vient dire sur l'espace, sur l'expérience que vous vouliez offrir? Que si je me dis, c'est vraiment un gros changement par rapport à votre clientèle, mais comment ça a été, ça vient d'où l'inspiration et tout ça?
Donc, mon père le dit souvent. Mon père dit souvent que notre but, c'est d'offrir un service au-delà des attentes de nos clients. Donc, c'est vraiment, si on regarde l'édifice, je dirais que c'est au-delà des attentes. C'est vraiment, on veut offrir une expérience exclusive. On a des coins plus privés, des espaces plus VIP dans notre espace lounge. Mais on veut encore que les clients se sentent bienvenus, que c'est confortable. Donc c'était un peu ça le but et ce qui a inspiré ce projet. On a nos ateliers aussi qu'on a complètement rénovés, puis on est très chanceux de pouvoir avoir nos ateliers dans le même édifice. Donc ça, on avait aussi le but de montrer aux clients c'est quoi la qualité qui est en arrière des produits qu'ils achètent chez nous. Donc, cette précision, cette attention aux détails qu'on a avec notre manufacture de bijoux, on voulait l'amener dans ce projet de rénovation aussi. Puis je pense que ça se voit. Visuellement, je dirais un des plus grands projets, le point focal de notre magasin, c'est l'escalier. Et l'escalier, c'est inspiré par les facettes d'un diamant. Donc, on voulait mettre ces petits clins d'œil, ces petits indices à notre savoir-faire aussi à travers l'espace.
Donc, c'est toi qui s'en est vraiment occupé de ce projet-là, de l'arch, pas le dessiner complètement, mais c'était toi qui étais responsable de mettre en œuvre ce gros projet-là. J'imagine que c'est quelque chose d'assez incroyable d'avoir la confiance un peu de la famille qui dit, et tu nous amènes dans un nouvel espace pour 50, encore plus que 50 années encore.
C'était ma cousine Rana qui
OK,
était
Adam, OK.
chef de ce projet. Donc oui, mais elle est une perfectionniste. Puis si je devais choisir quelqu'un pour faire un projet, ça serait toujours elle. Genre, elle apprécie beaucoup l'architecture, le design. C'était ses études étaient dans le design. Donc non, c'est. Elle est incroyable, puis elle a vraiment bien fait et été capable de travailler avec nos architectes qui sont magnifiques aussi. Donc,
C'est vraiment intéressant quand même. Puis ce
ouais.
que ça dit, c'est quand les gens rentrent chez vous pour les premiers pas, dans les vos précédents clients qui rentrent maintenant, comment ils se sentent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est comme oh, c'est plus comme avant ou c'est encore super accueillant qu'ils vous disent je pense que c'est ça l'important dans une relation comme ça.
Ouais, c'est ça. C'est ça qui est important parce qu'on a tellement agrandi le magasin, mais voulait toujours garder l'esprit familial, la proximité avec nos clients. Donc, on a mis beaucoup d'emphase sur ça. On a agrandi notre équipe, on a changé nos processus un petit peu pour assurer qu'on garde cette proximité-là. Mais oui, c'est vraiment quand quelqu'un entre au magasin, ils sont toujours impressionnés. Mais si je regarde le feedback, les commentaires de nos clients, c'est toujours par rapport à leur vendeur, avec qui il était, c'est qui a contribué à ce moment dans leur vie. Parce que quand il vient acheter chez nous, c'est souvent pour un moment spécial dans la vie. Donc, c'est toujours cette partie-là qui est le plus mémorable, je dirais, pour les clients. Donc, ouais, je dirais, c'est vraiment ça qu'ils ressentent en entrant chez nous et en faisant un achat chez nous, ouais.
Parce qu'on remarque justement, vous aviez, j'imagine que ce n'était pas nécessairement un choix de rénover, mais c'était vraiment une obligation avec tout ce qu'on a, avec si on parle de du Royal Mount, Berks qui est aussi rénové, aussi avec Time Valley qui s'est installé aussi au Royal Mount. J'imagine vous voulez quand même occuper une position différente. Comment vous placez dans cet écosystème-là, en fait, avec votre proposition unique? Parce que on s'entend que ce serait tellement facile d'aller un peu partout puis d'essayer juste de battre la compétition, mais.
Ouais, non, c'est ça, c'est... Ouais, pour nous, on est chanceux, on est un magasin qui était établi depuis 1978, donc ça, on est établi comme destination, et on est probablement un des... Ouais, on est probablement le magasin dans tout le Canada avec le plus de marques de luxe sous un toit, dans un magasin.
Dans le même espace.
Dans le même espace, c'est ça. Donc ça nous... Ça fait une différence aussi. Nos ateliers, ça nous permet vraiment de faire des créations sur mesure, sans nécessité de outsourcer et de... Tout reste dans les mains de nos artisans de A à Z. Et c'est quelque chose que d'autres magasins peuvent pas faire. Et c'est une expérience hors pair aussi grâce à notre nouveau espace et nos experts. Donc, je pense que ça nous positionne différemment. Mais on est chanceux quand même. T'sais, on a toujours été chanceux d'avoir nos compétiteurs dans le marché. On avait travaillé avec eux depuis toujours. Et maintenant, avec Royal Mount et Time Valley, c'est impressionnant de le voir parce que ça agrandit le luxe à Montréal. Ouais. Donc, c'est spécial aussi de le voir parce qu'on n'avait jamais des boutiques comme ça dans notre ville. Oui.
C'est intéressant justement parce que ça vous autres aussi ça vous met de l'avant votre relation que vous voulez aller chercher avec le client. Je pense que c'est ça votre principal atout, c'est votre service à la clientèle.
Oui.
On se sent tellement écouté quand j'étais là quelques reprises avec votre agence de relations publiques. Puis on sent vraiment les gens sont vraiment attentionnés quand ils nous parlent. C'est vraiment, je pense, c'est ça votre point de votre force en fait, ce que je pourrais dire. Donc, je pense que c'est le service à la clientèle qui est là. Je pense que c'est depuis là pour ça que vous restez en fait depuis
Exactement, exactement. C'est comme j'avais dit, c'est tous les commentaires qu'on reçoit, c'est par rapport à nos associés, parce que les clients retournent toujours voir l'associé qu'ils connaissent, qui sont confortables avec lui ou avec elle. Donc c'est spécial de voir ça, mais c'est aussi très important dans notre domaine, en général, dans la vie, les
Oui.
relations humaines.
Oui.
Mais oui, c'est quelque chose qui fait la différence pour nous, puisqu'on était là depuis longtemps et puisque mon père et mon oncle a comme débuté beaucoup de ses relations avec ses clients qui sont toujours clients chez nous.
C'est vraiment intéressant parce que justement avec l'arrivée du numérique, justement, j'ai l'impression que le côté justement la fidélisation, l'accompagnement et le service conseil justement en personne prend de plus en plus d'importance. Est-ce que vous le remarquez quand même que les gens sont vraiment contents de. Je sais que vous avez quand même une boutique en ligne, mais est-ce que vous voyez que les gens viennent plus en boutique qu'achètent en ligne?
Oui, toujours, ils vont venir en boutique. Je pense que la recherche se fait en ligne. Ils vont apprendre beaucoup plus. Ça a changé. Genre, les attentes des clients ont beaucoup changé à cause du numérique. Puis, ils peuvent apprendre tout ce qu'on connaît comme détaillant en ligne, en faisant des recherches en ligne. Donc, ils sont très éduqués sur nos produits. Puis, c'est beau parce que quand ils viennent au magasin, des fois, on discute. C'est comme une discussion par rapport aux montres, puis c'est une conversation plus que c'est comme faire une vente aux clients, puis leur convaincre. C'est vraiment, C'est le fun, honnêtement, ce
Ouais.
changement-là. Mais il apprécie beaucoup de venir dans le magasin pour avoir ces conversations-là, pour regarder la montre ou le bijou en vrai, en personne. Donc, c'est. Et l'expérience, je pense que même la nouvelle génération, il apprécie beaucoup l'expérience qui vient avec l'achat de ces produits-là.
Oui, parce que vous n'avez rien à concurrencer à une boutique de montres de Dubaï. Là, on s'entend que c'est non, mais on regarde l'architecture, la façon que c'est fait. Je veux dire, on sent comme si on était dans une des meilleures boutiques de montres au monde, là, si on peut dire ça. Là, il n'y a pas tant de différence chez vous que si on était ailleurs. C'est le fun d'avoir ça justement chez nous, qu'on soit pas obligé de se déplacer. Puis c'est vraiment intéressant.
Merci.
Si on parle justement de la nouvelle génération, comment vous voyez qu'ils s'intéressent différemment aux montres mécaniques? Parce qu'on s'entend que vous êtes plus dans les montres mécaniques que numériques. Est-ce que vous voyez qu'il y a quelque chose par une nouvelle notion par rapport au temps, ou est-ce que c'est plus par rapport au désir de montrer en fait ce qu'ils possèdent?
J'irais, la nouvelle génération, comme on avait dit, sont très bien informés, ben, grâce aux réseaux sociaux, aux médias sociaux. Mais je pense que à cause de ça continue l'appréciation pour les montres mécaniques. On voit ça souvent sur les médias sociaux, juste un horloger qui fait un service sur une montre et ça nous donne l'appréciation de, même si c'est comme un métier d'art de très longtemps, tu sais, mais je pense que la nouvelle génération sont influencés par les tendances, les nouveautés du moment, mais ils veulent vraiment comme, il y a une grande importance pour leur style personnel et leur individualité. Donc, je pense que les jeunes acheteurs ont une appréciation pour la qualité et des décisions qui comme reflètent leur style et leur personnalité. Parce qu'une montre, c'est quelque chose qu'on peut agencer, qu'on met avec notre outfit et tout ça. Puis je pense que c'est quelque chose que on voit ça souvent avec les jeunes acheteurs.
Mais si on parle un peu justement de nouveautés, si on se dirige un peu vers Watch and Wonders qui avait lieu il y a quelques semaines, vous y étiez personnellement. Et pour ceux qui connaissent pas ça, c'est comment qu'on décide. Moi, je suis jamais allé non plus, j'avais vu de l'extérieur. Comment vous décririez l'atmosphère à quelqu'un qui a jamais mis les pieds dans cet endroit-là, qui est amateur de monde, premièrement. Mais comment on décrit ça? Ça a l'air d'être assez incroyable, puis
C'est incroyable. C'est un événement très comme stimulant à vivre parce qu'on est littéralement comme au cœur de l'industrie entre toutes les marques qui offrent, qui montrent leur nouveauté, leur innovation. C'est pour l'industrie, pour une industrie qui est très comme ancrée dans l'histoire. Il y a quand même des innovations qui se fait à chaque année par rapport à l'horlogerie et leur design. Donc c'est toujours comme fascinant à voir comment ils peuvent t'sais, pousser les limites, mais en restant dans les traditions de la marque et dans l'histoire de la marque. Donc c'est incroyable. Ça fait comme 6 ans de suite que je vais à Watches and Wonders. C'est toujours incroyable.
Justement, par rapport pour un détaillant indépendant comme vous, c'est quand même un investissement considérable d'aller là-bas. Qu'est-ce que ça vous apporte au lieu des. En plus des nouveautés que vous voyez, que vous allez avoir en boutique, y a-t-il des choses que vous faites là-bas que vous ne pourriez pas faire autrement qu'à être là? Est-ce que c'est justement c'est le contact avec les marques, est-ce que qui sont plus faciles à faire qu'en relation en numérique ou par courriel ou.
Parce que quand à Watches and Wonders, il y a comme un booth pour chaque marque. Donc quand vous entrez, vous vivez genre l'expérience de la marque. Donc ça se fait pas à distance. Donc c'est vraiment vous entrez, vous vivez l'univers de chaque marque. Ça nous permet aussi de, comme, de comprendre leur vision pour l'année, le message pour l'année. Puis ça nous aide aussi à comme, mieux le représenter et mieux amener la vision de la marque à Montréal pour nos clients aussi. Ouais. Puis être capable d'échanger directement avec les équipes de chaque marque, c'est aussi... ça nous aide beaucoup au-delà de juste voir les nouveautés. On est capable de leur parler, de parler de notre business, de nos clients, qu'est-ce qui est plus tendance à Montréal versus d'autres marchés. Donc, il y a beaucoup de valeur d'y aller à Watches and Wonders. Ouais.
Mais justement, j'ai vu l'aquarium de Panerai là, qui est assez impressionnant, merci. Puis comment ça, tu sais, on voit justement les boules qui sont quasiment aussi gros que votre boutique ou pas loin. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes allé là? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a plus de marques? Est-ce qu'il y a des marques qui changent? Est-ce qu'il y a des tendances qui se dessinent depuis quelques années?
Il y a toujours des changements de marques et des petits changements de marque, mais c'est toujours... Il y a toujours de plus en plus de participants. Il y a beaucoup plus de focus sur les médias aussi, sur les médias sociaux. On peut voir toutes les nouveautés avant d'être au Pal Expo pour Watches and Wonders. Ça a changé, mais il y a beaucoup plus... Il y a toujours... plus d'enthousiasme et comme c'est un moment spécial d'y aller, puis ça continue même si on regarde les nouveautés sur notre téléphone avant même d'y aller, on a hâte de voir ces nouveautés-là en personne parce que c'est toujours différent de le voir en personne que sur l'écran. Mais oui, de les manipuler, de les essayer, c'est toujours fun. Mais oui, ça change toujours d'année en année. Les tendances, je dirais, il y a toujours des tendances de l'industrie, genre maintenant, les montres plus petites pour femmes, même pour hommes, c'est vraiment la tendance qu'on voit, mais ça dépend de la marque aussi, parce que les marques vont pas aller trop loin de leur ADN aussi, c'est une marque de montres de boîtier plus grande, c'est, ouais.
Ouais, c'est sûr qu'on verra peut-être pas Panerai avec un 38 mm. c'est quand même assez. Ça, c'est le 38 mm qui commence à revenir aussi, comme que tu disais. Je pense que c'est une grosse tendance, je pense, qui est intéressante à voir. Tu sais. C'est surtout par rapport à... Quand tu portes un habit aussi, surtout en costume ou dans un bal ou quelque chose, que d'avoir une trop grosse montre, des fois, ça peut être... désagréable, ouais. Ça prend trop de place et puis c'est vraiment intéressant. Puis justement, la relation justement avec les manufacturiers, ça se cultive. De quelle façon vous cultivez ça là-bas? Il y a tellement de monde qui doit vouloir leur parler. Comment vous vous démarquez un peu de la concurrence là-bas? C'est sûr que quand ça fait à peu près, comme je disais, 48 ans que vous connaissez les manufacturiers, donc vous devez avoir un avantage sur les autres qui depuis que...
Oui, c'est ça. C'est spécial aussi parce que durant, comme à chaque année, c'est ou mon père ou mon oncle qui nous accompagne, puis c'est spécial parce qu'avec toute cette expérience dans l'industrie, ils connaissent tellement de monde, puis on rencontre tellement de monde. Il me dit, je le connais depuis son temps à cette marque-là et cette marque-là. Et c'est différent que peut-être pour d'autres détaillants. Mais donc, ça, c'est intéressant de rencontrer autant de monde et de savoir leur expérience dans l'industrie. Puis, mais pour nous, ça cultive notre relation avec eux aussi. Juste être là face à face avec eux. Pas juste avec nos représentants d'Amérique du Nord ou du Canada, mais aussi, des fois, on a la chance de comme rencontrer les horlogers s'ils font une présentation d'horlogerie ou d'un métier d'art dans leur espace. Donc, c'est extrêmement spécial de voir ça en personne. Mais aussi, par exemple, Dans notre rendez-vous avec Bulgari, on a eu la chance de rencontrer leur chef d'haute horlogerie qui nous a fait une présentation spéciale de toute leur création d'haute horlogerie. Donc, ça donne l'appréciation de plus en plus pour la marque et de voir qui est en arrière, tu sais, de ces créations-là. Donc, c'est extrêmement.
Oui, c'est assez impressionnant, justement, toutes les différents mouvements et tout ce qui va avec, tout ce qui est. Est-ce qu'il y a des montres qui t'ont impressionné? Quelles sont les pièces, mettons, si on a entre 3 et 5 pièces, peut-être, qui ont vraiment, comme dit, comme, oh, OK, ça, je la veux dans, on les veut dans la boutique, là.
En parlant de Panerai, je vais commencer avec Panerai parce que j'ai. Pour moi, le storytelling, c'est la chose qui m'amène, qui me. Ouais. C'est. Pour la. Il y a une montre d'Estro qui est déjà en boutique. La montre Panerai Luminor d'Estro. D'habitude, la couronne de la montre, c'est à droite du boîtier. La d'Estro, c'est à gauche. Donc, normalement, quand on voit une couronne à gauche, c'est un modèle lefty, genre un modèle gaucher. Mais ils ont expliqué un peu plus pourquoi c'était comme ça. Puis c'est pas nécessairement pour quelqu'un qui est gaucher. Donc j'ai beaucoup aimé ça parce qu'ils ont beaucoup comme retourné à leur ADN avec leur nouveauté cette année. Donc j'ai beaucoup apprécié ce modèle.
Il y a un nouveau CEO d'ailleurs, hein? Emmanuel Perrin, qui était CEO par intérim chez Time Valley il n'y a pas longtemps, que j'ai rencontré en personne quand ils ont ouvert Time Valley. Donc, c'est un drôle de lien, en fait. Donc,
Exact, oui. Puis c'est un peu, tu sais, c'est un peu ça que notre représentant aussi expliquait que son nouveau boss a changé. Puis il a beaucoup cette vision pour le storytelling de la marque et l'ADN de Panerai, puis on peut le voir avec les nouveautés. Donc c'est intéressant. Ouais. J'ai beaucoup aimé aussi la Tudor Monarch, la Monarque. J'adore les designs vintage avec de l'inspiration vintage. Donc j'ai beaucoup aimé ce modèle-là, comme la forme du boîtier et comme la coloration du cadran aussi. C'était spécial. Puis c'est inspiré d'un modèle d'archives de Tudor. Donc c'est spécial aussi. Le DWC, la pose prince est de retour. Donc mais en particulier, il y a un modèle petit prince pour femmes. Genre, je pense que c'est 38 ou 37, je pense 38 ou 37 mm. C'est un modèle Portofino. Puis c'est peut-être la première fois qu'il y a un modèle petit prince qui peut être porté pour un peu plus petit poignet. Petit Prince, c'est toujours c'est une histoire qu'on connaît. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce modèle.
Sans oublier la Venture Vertical Drive.
J'ai pas choisi la montre qui était comme leur piece, mais
Ouais.
ouais.
C'est correct,
Mais
c'est correct.
pour moi, j'ai beaucoup aimé celle-là, ouais.
Mais c'est vraiment intéressant. Est-ce que des trucs, est-ce que tu en avais d'autres qui t'avaient marqué aussi?
Je vais dire pour Bulgarie, quand on avait eu cette présentation d'haute horlogerie, c'est pas nécessairement une montre d'autres complications, mais c'est une montre monétée. Genre, donc, toutes les bijoux et les montres de Bulgarie monétées, il y a un monnaie comme romain qui est dans la pièce. Donc, c'est littéralement comme une pièce d'histoire qu'on porte sur le poignet ou dans un bijou. Donc, c'est toujours impressionnant de les voir. Puis, le modèle que j'avais vu, que j'ai eu de la chance d'essayer, c'était un modèle Toubogas de Bulgarie, qui est une signature de Bulgarie. Donc, j'ai beaucoup aimé ce modèle aussi. C'était juste spécial de pouvoir voir cette montre-là en personne. Ouais.
Vraiment, c'est impressionnant, j'imagine, de voir justement tout. Il y en a pas, probablement pas tant que ça qui ont été fabriqués non plus. Là, c'est peut-être des éditions extrêmement limitées, là. Pour
Oui,
ceux-là qui. Ouais, pour les gens qui ont
oui.
un bon montant à investir dessus, j'imagine aussi.
Oui.
Mais c'est vraiment intéressant. Puis Y a-t-il des pièces que tu as hâte justement de montrer à tes clients que vous avez hâte d'exposer en boutique? Y en a-tu que tu sais qui vont arriver dans les prochains mois qui sont pas encore là, que tu dis, oh, là, les gens vont vouloir les voir ceux-là vraiment, là, que j'ai vraiment hâte de leur montrer?
Ben, j'avais hâte, la Roadster de Cartier, c'est comme un retour du Roadster. Elle est déjà en boutique, mais c'est une belle surprise. Puis en Amérique du Nord, on va l'avoir. Ça va être exclusif pour l'Amérique du Nord pour les premiers 6 mois. Donc, c'est cool pour nous. Y a beaucoup de modèles qui ont déjà arrivé. Genre, les Tudors sont déjà là. La Panerai Destro est déjà là. Une qui est vraiment. Je gère le coltre avec le nouveau Master Control sur le bracelet. Magnifique. Ça va être là, je pense, ça va être en octobre que. Peut-être octobre, novembre que ça va commencer à être livré. Ce modèle, comme le design, est absolument comme. C'est comme un design parfait. Donc, j'ai hâte de le recevoir pour pouvoir les montrer à nos clients.
Vraiment, c'est vraiment intéressant. Donc, il arrive plus vite que les années précédentes, quand même, en boutique.
Oui, il y a plusieurs marques qui ont. Oui. Bonne observation. Il y a plusieurs marques où on a reçu quelques nouveautés comme rapidement, mais il y a beaucoup qui vont arriver en octobre ou plus tard dans l'année.
Pour les fêtes.
Oui, exact. Juste en fait.
Puis je termine peut-être un petit peu là-dessus sur quelques questions. S'il fallait que tu choisisses une montre dans la collection que vous avez en boutique pour illustrer Château d'Ivoire, ce serait laquelle que tu choisirais?
Je vais choisir ma plus récente acquisition. Je te le montre, même si j'ai. c'est la Piaget 60. Je l'avais vu, je l'avais découvert à Watches and Wonders 2025. Puis je pouvais pas l'oublier. Finalement, j'ai décidé de l'ajouter cette année. Je viens de l'acquérir, mais. J'ai toujours aimé Piaget parce qu'ils ont cette esthétique plus art déco que j'aime beaucoup. Puis Piaget, c'est un horloger et un bijoutier.
Ça ressemble beaucoup à ce que vous faites, en fait, chez Château d'Ivoire.
Donc, c'est ça. Donc, j'apprécie la marque pour ça. Mais je crois surtout que c'est notre philosophie Château d'Ivoire. C'est la 60, c'est pas juste une montre comme qui me donne l'heure. Pour moi, c'est comme une expression personnelle. C'est quelque chose que je peux porter avec mes bijoux, avec tout ce que, tu sais, toute ma collection que je peux porter pour les galas, mais pour chaque jour aussi. Je la porte comme toujours. Mais tu sais, pour moi, notre sélection de montres, nos créations joaillères et les pièces qu'on a dans notre atelier, l'objectif, c'est de créer vraiment quelque chose qui reflète le style personnel du client. Et pour moi, c'est quelque chose de très personnel, cette montre. C'était un coup de cœur pour moi. C'est une forme très unique. C'est pas une montre que je voulais.
Oui, c'était vraiment, vraiment quasiment un cœur. Je pourrais dire que presque.
C'est une forme qui existait pour Piaget depuis longtemps, qu'ils ont comme réintroduit, mais je le vois pas, c'est souvent sur le poignet d'autres personnes. Donc, pour moi, c'est, tu sais, on veut comme cultiver des relations spéciales et comprendre le client, puis faire vivre leur vision dans nos bijoux. Puis, pour moi, cette montre, ça représente ça pour moi.
Oui.
Donc,
c'est vraiment intéressant. Ouais. Puis, quand il y a quelqu'un qui arrive chez vous pour acheter une première montre, là, qu'est-ce que vous lui dites? Y a-t-il quelque chose comment vous l'accueillez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est important qu'il fait son premier achat d'une montre haut de gamme chez vous?
Oui. Well, on dit toujours, mon oncle, il dit ça toujours. Je fais beaucoup de quotes.
C'est bon, c'est correct.
Mais mon oncle dit toujours, après l'achat d'une montre au client, il dit toujours de porter-la en santé. Parce que, tu sais, une montre, c'est une pièce extraordinaire. Il y a un savoir-faire, il y a une histoire, il y a une valeur importante derrière elle. Mais au final, le plus important, c'est qu'elle soit portée, qu'elle soit vécue. C'est les plus belles montres sont celles qui sont accompagnées d'un moment spécial. Comme je l'avais dit tantôt, il y a toujours un moment spécial dans la vie qui accompagne chaque achat. Donc, pour nous, c'est vraiment ça qu'on dit à chaque client. C'est ta montre, c'est porte-la et porte-la en bonne santé. Enjoy the watch.
Vous devriez faire signer un livre d'or pour chaque personne qui achète sa première montre.
Ouais.
Ce serait quand même assez cool, là.
Ouais.
Chaque personne qui achète sa première montre signe.
Ouais, c'est une belle idée. Ouais. Ouais, ça serait
garder
cool.
Une marque physique, en fait, ce serait.
Ouais.
Puis, si on terminait un peu là-dessus, dans 5 ans, où vous souhaiteriez que soit Château d'Ivoire, que ce soit en tant que maison ou en tant qu'institution montréalaise, là, comment vous voyez? Je sais que ça évolue rapidement si on parle du climat sociopolitique ou d'autres choses,
Oui.
les tarifs ou peu importe,
Ouais. Ouais.
le monde du numérique aussi, donc.
Ouais. Mais j'aimerais. On aimerait toujours, t'sais, grandir, mais c'est vraiment qu'on. T'sais, avec la technologie qui change, on aimerait moderniser certaines choses pour juste améliorer l'expérience de nos clients. C'est toujours. T'sais, on a toujours des projets. Dans le pipeline chez nous, que ce soit dans la construction, que ce soit dans la technologie, que ce soit dans nos ateliers. Donc, il y a toujours c'est des améliorations à faire. Puis, c'est là où on veut vraiment. On a beaucoup de projets technologiques qu'on veut. On est là-dessus déjà, mais dans les prochains 5 ans, on veut vraiment amener un certain modernité juste pour améliorer l'expérience de nos clients. Mais on veut toujours, t'sais, rester connecté avec notre histoire et notre héritage. Donc, on veut continuer à conserver, t'sais, nos relations, à bâtir des nouvelles relations, mais qui sentent cette passion et t'sais, qu'on est une entreprise familiale. On veut garder cette qualité-là. Et oui, et juste garder ces valeurs-là à travers notre nouvelle génération, moi et mon frère et mes cousins et cousines. Oui.
Et si les gens veulent vous suivre un peu sur Château d'Ivoire, c'est quoi les meilleurs? J'imagine que Instagram est une grande plateforme pour vous
Oui.
pour rejoindre. Donc, est-ce qu'il y a d'autres?
Oui, Instagram, notre Instagram est toujours la meilleure plateforme. C'est là où j'avais toutes mes mises à jour en direct de Washington Wonders. mais ouais, Instagram. Puis maintenant, on commence un petit peu sur TikTok à faire des vidéos un petit peu plus créatives et plus fun pour nos clients, pour aller chercher une nouvelle audience, mais ces deux réseaux-là où on travaille le plus. Ouais.
Et bien sûr, au 2020 rue de la Montagne en personne.
Exactement. Tout le monde est toujours bienvenu à notre magasin, même si c'est pour un café et une conversation, on veut que le monde vienne nous voir pour ça. Ça nous fait plaisir. Ouais.
Ben, merci beaucoup, Sarah. C'est vraiment un plaisir de vous avoir eu pour notre émission aujourd'hui. Et puis, on se reparle très bientôt.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, Normand. Merci.
Et c'est ce qui termine le 12e épisode d'En première classe, un balado par Gentologie, le magazine pour gentlemen. Merci d'avoir été des nôtres pour cette conversation avec Mme Sarah Cadbé de Château d'Ivoire et d'y avoir accordé toute votre attention jusqu'au dernier mot. Si cet échange vous a inspiré, je vous invite à découvrir une multitude de contenus sur gentologie.com, à vous abonner au balado et à partager cet épisode avec ceux pour qui l'art de vivre, la culture et le savoir-faire ont une vraie valeur. Je suis Normand Boulanger, fondateur, éditeur et rédacteur en chef de Gentologie, et on se retrouve très bientôt en première classe.